Non, je suis content de savoir que c'est pour une pièce parce que je trouve ça très intéressant. L'activité de recherche qui ne donne pas des publications de recherche, des articles, des choses comme ça, mais qui donne bien des choses qui vont se retransmettre à un public sous une autre forme. Maintenant, je suis éditeur, hein, donc, et un de nos derniers livres, c'est une fiction autour de la question du transhumanisme et du clonage, donc, qui s'appelle Germinata. Et justement, son auteur est spécialisé en école d'ingénieurs pour faire que les controverses scientifiques soient transformées en pièces de théâtre. Donc, je n'étais pas au courant du devenir de cette conférence, mais j'en suis particulièrement ravi. Pour ma bio, bah, j'ai été conservateur de bibliothèque ici à la Bibliothèque des sciences de l'Université de Caen. Puis j'ai passé un doctorat et donc je suis devenu maître de conférence, ici toujours à l'Université de Caen où j'ai créé le premier diplôme national sur l'Internet, qui s'appelait Nouvelles applications Internet, et avant un autre qui s'appelait Réseau applications documentaires et images. Et puis à partir des années 2000, je me suis penché sur la question, une fois qu'on sait comment faire, à quoi ça sert? Et donc de ce que j'appelle la culture numérique. Vous avez la malchance que tous mes cours sont filmés depuis 2009, les cours d'amphi. Hein, un cours d'amphi, c'est un spectacle, hein, ce n'est pas vraiment un cours, ce n'est pas quelque chose où on apprend directement, c'est quelque chose où il y a un spectacle et puis au lendemain, on se dit, ah tiens, j'ai entendu ça, je vais aller chercher plus loin. J'espère que je vais vous donner envie d'aller chercher plus loin, mais sinon d'autres se chargeront de vous le rappeler. Voilà. Donc, et maintenant, je suis devenu éditeur. Donc, comme je le disais, chez C&F Éditions, la meilleure maison d'édition, bien évidemment. La demande de Vassili a été, alors, tu nous parles un peu de ton parcours, de ce que tu as cru, de ce que tu as rencontré, de... Je n'ai pas l'habitude, moi, de ça. Je n'ai pas l'habitude de faire ça comme ça parce que, en fait, c'est papy raconte, quoi. C'est les belles histoires de l'oncle Paul. Mais en même temps, il faut quand même profiter d'une chose, c'est il y a des privilèges à la vieillesse. C'est-à-dire, on a connu pas mal de choses et donc, quand on n'est pas trop vieux, on s'en souvient encore un peu. Et donc, on peut en parler à d'autres. Voilà. Effectivement, j'ai cru à des tas de promesses, à des tas d'utopies et on verra à la fin ce que sont mes utopies devenues. Alors, moi, j'ai eu la chance, donc comme je vous disais, privilège de l'âge, d'avoir connu deux grands moments utopiques de la fin du XXe siècle. Mai 68, j'étais en troisième, j'ai couru dans les bois pendant un mois, il a fait super beau, mais dès le mois de septembre, je suis rentré au lycée. Dans un lycée de banlieue de parisienne, et là, il y avait des comités d'action lycéens avec 300 personnes qui se réunissaient, enfin, des choses qui sont maintenant devenues inimaginables, j'imagine, mais bon, c'était mai 68, voilà. Et la deuxième grande utopie que j'ai rencontrée, c'est la naissance de la micro-informatique et de l'Internet ultérieurement. Moi, j'ai acheté mon premier Mac en 86, hein, donc voilà. Peu de temps après sa parution, et j'ai mis toutes mes économies, hein, ce n'était pas donné. Mais à l'époque, j'avais ma thèse sur une disquette. Il y avait le système d'exploitation, le logiciel MacWrite et toute ma thèse qui tenait sur la disquette de mon Mac. Et donc, après la découverte de l'Internet en 1993, allô papy? Voilà. Donc, bon, voilà. Alors, il faut. Ah oui, si. Peut-être, il faut jamais se désespérer, peut-être que je vais vivre un nouveau moment utopique. Quel moment de l'intelligence artificielle? On en parle beaucoup. Le lundi, je suis sceptique. Le mardi, j'y crois un peu plus. Le mercredi, je redeviens sceptique. Enfin, j'ai pas encore d'avis complètement tranché sur cette question, sur est-ce que c'est comme le métaverse, comme les cybermonnaies, comme toutes les bêtises qu'on a pu entendre ces dernières années, un grand coup de hype et qui ne donnera rien, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement assez majeur et qui provoque dans la société ce que j'appellerais une blessure narcissique. Blessure narcissique, c'est que les humains sont en train de se rendre compte que les animaux, peut-être même les plantes, sont capables d'échanger du sens et pas seulement des phéromones. et que les machines sont capables de produire du langage. Vous comprenez que le modèle cartésien, sur lequel on a tout basé depuis 3 siècles, est en train de prendre des coups dans l'aile, et que ça peut être aussi un nouveau grand moment utopique de réflexion sur ce qu'est l'humain, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, tout le reste, Internet, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'est l'humain dans ce cadre-là. Alors, revenons un peu sur la fin du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, qui a été globalement un moment plein d'enthousiasme. Alors, il y avait des enthousiasmes scientifiques. On a quand même mis un homme sur la Lune, hein. Un enthousiasme technique, et on a inventé des tas de médicaments, de l'enthousiasme technique avec le développement de l'informatique. Et de l'informatique, c'est du langage hein, aussi. Donc pour les humains, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très important d'être capable d'avoir une machine qui a un langage. Ça a été les questions politiques, hein, donc je parlais de mai 68, on disait, il y a un petit film qui s'appelle « Les enfants de Marx et du Coca-Cola ». Donc, montrer que c'est aussi la consommation, les questions qui sont posées à ce moment-là, qui s'induisent dans la sphère politique et géopolitique. Hein, donc, la zone des tempêtes, ce qu'on appelait la zone des tempêtes à l'époque, la question du Vietnam, qui a été pour ma génération une question de mobilisation majeure. Et je ne parle pas de ma génération en France, je parle de ma génération à l'échelle mondiale, hein, notamment aux États-Unis. La question des relations qui ont été profondément bouleversées, la naissance du féminisme, la liberté sexuelle, notamment pour les membres des minorités sexuelles. C'est aussi les questions de la culture. Hein, le rock, l'invention du rock qui a transcendé toute la jeunesse, c'est le free jazz. Enfin, c'est la multiplication des images. Ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir du mal à vous imaginer. Mais nous vivions une pénurie d'images, une pénurie d'images. C'était impossible d'aller envoyer un film, c'était exceptionnel. La télévision était en noir et blanc et elle s'arrêtait à 22 heures. Enfin bon, voilà. Donc c'est l'explosion du monde des images. Alors bien sûr, il y a les déceptions. Et là, ça va être un truc récurrent. Est-ce que nos utopies valent ou est-ce qu'elles vont obligatoirement se transformer en dystopie? La première déception, c'est l'inauguration de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Hiroshima, hein, avec tout ce que ça va entraîner par la suite. Dans le genre papy raconte, à l'école, on m'apprenait qu'est-ce qu'il fallait faire si une bombe atomique tombait sur Paris, qu'il fallait se mettre dans la cave et s'entourer de draps blancs. Voilà. Donc c'est la persistance de la guerre, mais partout ailleurs. Et donc nous avons cru que nous étions dans la paix alors qu'en fait il y avait la guerre partout dans le monde. C'est les retournements de veste politique, c'est la montée du chômage de masse. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'absolument structurant sur la fin du XXe siècle. Et puis c'est le basculement vers le tout commerce, c'est-à-dire le remplacement des relations humaines ou des services publics par des relations commerciales. Alors 67-68. Je dis bien 67-68 parce que ça a commencé à San Francisco, le Summer of Love de 1967, qui voit converger toute la jeunesse des États-Unis, qui se partage du LSD, qui essaye de se découvrir de la musique, donc ce qu'on appellera le rock psychédélique, etc., et qui essaye d'inventer une autre manière de changer le monde. Parce que l'objectif était bien celui de changer le monde, mais en croyant qu'on peut changer le monde à partir du moment où on va se changer soi-même. En France, c'est mai 68, qui est la plus grande grève ouvrière depuis 36, qui arrive et qui est poussée, aiguillonnée par des jeunes, des étudiants. Dans les deux cas, c'est vraiment la jeunesse qui devient une force motrice, hein, qui devient la flamme de la révolution, comme disait Che Guevara. Et la deuxième chose importante dans les deux cas, c'est que c'est les questions culturelles qui ont été un peu centrales dans ce que vont devenir le Summer of Love ou mai 68. C'est le fait que va s'inventer de nouvelles formes culturelles, de nouvelles relations d'échange. Et parmi celles-ci, une idée que j'appelle le psychédélisme, qui n'est pas tant uniquement la prise de LSD que l'idée d'imaginer que le monde est un réseau d'informations, que tout est information et que l'information lutte contre l'entropie du monde, que nous sommes des capsules informationnelles échangeant avec d'autres nos informations, avec du langage, mais pourquoi pas avec des bits numérique, pourquoi pas avec les phéromones dont je parlais tout à l'heure, pourquoi pas en partageant le LSD qui renforce cette idée que tout est un réseau interconnecté. Et ça, c'est vraiment une grande idée culturelle, une grande utopie culturelle, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas de l'information, nous sommes des êtres de chair et d'os. Nous mangeons, nous pesons sur la planète, nous faisons l'amour, enfin nous avons toute une série de choses qui ne sont pas de l'ordre de l'échange d'informations. Mais pour autant, un grand mouvement, je dirais scientifique, qui s'appelle la cybernétique, s'est construit autour de cette idée que nous étions que des échanges d'informations. Ça, plus les équations aux dérivées partielles, n'est-ce pas, Sébastien? Alors là, la suite après mai 68, donc tout des grands combats dont vous savez très bien qu'ils sont remis en cause depuis. Hein? C'est-à-dire que ce soit les punks, que ce soit la question de l'avortement, que ce soit les questions du black power, mais derrière du refus du racisme systémique, tout ça c'est aujourd'hui remis en cause. Donc là aussi, non pas parce que c'était des utopies qui devaient forcément mal tournée, mais parce que elle se situe dans une arène politique dans laquelle il y a des. Parmi tout ce qui s'est passé dans les années 70, il y a ce que j'appelle l'imaginaire technique ou l'imagination technique avec ces deux jeunes hommes que vous reconnaissez certainement. C'est Steve Wozniak et Steve Jobs. Ouais, ils ont été jeunes aussi. Donc eux, ils vont inventer la micro-informatique, c'est-à-dire une informatique qui est créée par les hobbyistes et pour les hobbyistes. Elle n'était pas destinée dans un premier temps au grand public, elle était destinée à des gens qui allaient s'approprier l'ordinateur, avoir un micro-ordinateur pour soi. C'est aussi des gens qui vont participer au premier réseau, donc la naissance d'Internet début 70, et comme en France, le réseau Cyclades, hein. Voilà. Donc, ils vont commencer à mettre en place ce qu'un futurologue des années 60, Leak Leader, appelait la symbiose entre l'homme et la machine. Alors, cette utopie de la micro-informatique est vraiment très puissante parce qu'avant, on avait une informatique de contrôle, des ordinateurs qui ne tenaient pas dans cette pièce. Hein, qui était centralisé. Et là, d'un seul coup, on allait pouvoir mettre un ordinateur sur son bureau. On ne savait même pas si ça allait pouvoir servir. Celui-ci, c'est l'Altair. C'est le premier micro-ordinateur. Il marchait, il y avait des boutons on-off. On mettait des 1, 0, 0, 0, 1, valide. Et comme ça servait absolument à rien. Hein. Mais c'était un ordinateur que les hobbyistes pouvaient s'approprier, utiliser. Et donc, ça va déclencher derrière cette volonté d'avoir son propre ordinateur. Pourquoi faire? Ben pour se débarrasser de l'informatique de contrôle, pour reprendre du pouvoir sur les informaticiens en blouse blanche qui géraient les grands systèmes. Et puis, très vite, parce que ça permet de créer le Macintosh quand il va être lancé. Eh ben tiens. Allez. We celebrate the first glorious anniversary of the information purification of events. What we did for the first time in all history, from a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of an incompetent force. Repetition of force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. With one will, one resolve, one cause. Our hands shall talk themselves to death, and we will play them with their own conclusion. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Alors, cette publicité est, à mon sens, un représentant majeur de ce qui s'est passé avec la naissance du Macintosh. C'est l'ordinateur destiné au grand public, qui va être un ordinateur créatif et qui va en finir avec Big Brother en 1984. en finir aussi avec ces hommes en costume de flanelle grise qui regardent, écoutent ainsi tranquillement Big Brother, et cette jeune fille qui est la seule en couleur. Le film est de Ridley Scott, hein, pas rien. Voilà. Et c'est la première grande publicité qui a été diffusée partout aux États-Unis pour annoncer un ordinateur. C'est, je pense, un représentant majeur, cette vidéo, de l'esprit qui voulait être mis derrière cette pomme croquée dont on peut imaginer que c'est la pomme de Alan Turing. Alan Turing est fondateur de l'informatique, c'est lui qui a fait la première grande démonstration en 1936. C'est lui qui a décrypté les messages allemands, c'est un héros de guerre, qui s'est suicidé parce qu'il était homosexuel et voulait le mettre en prison et lui le condamner à la castration chimique. Et donc, il s'est suicidé en croquant une pomme avec du cyanure, comme Blanche-Neige, en habit de Blanche-Neige. Voilà. Alan Turing a été réhabilité il y a 2 ans. Alors, on dit les utopies, qu'est-ce qu'elles peuvent devenir? J'aime beaucoup, après, là, on n'a plus les hommes en costume de flanelle grise, mais on a ces hommes avec tous leur même miroir. Et vous voyez, ça ressemble très profondément aux hommes de flanelle grise que le Macintosh a voulu détruire. Vous reconnaissez bien évidemment le personnage qui marche debout. Alors, moi, j'étais bibliothécaire dans les années 80, et là, je vois naître quelque chose qui s'appelle l'industrie de l'information. Industrie de l'information. Ça veut dire que, d'une part, l'information va devenir industrielle, industrialisable, mais aussi qu'elle va rapporter de l'argent. Ça devient non plus un adjuvant de la production, mais bien la matière première d'un nouveau secteur économique qui s'appelle l'industrie de l'information. Et ça, c'est l'idée qu'on va avoir toute l'information du monde au bout du clavier parce qu'il y a des banques de données qui concentrent cette information. Alors, la première a été créée en 1966 par Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est les propulseurs des fusées. Hein, c'est un grand industriel militaire des États-Unis et qui a fabriqué les moteurs de Apollo. Et l'idée, c'était que tous les ingénieurs du projet, répartis dans plein d'entreprises, dans la NASA, Boeing, Lockheed Martin, etc., etc., puissent avoir accès à la même information scientifique. Donc là aussi, cette utopie du partage, voilà. Après, on a aussi eu, dans les années 80, une utopie sur l'organisation de l'information. Si l'information devient une matière première en tant que telle, qui crée un marché, une industrie, alors il faut l'organiser. J'étais bibliothécaire, je dois vous dire que c'est le métier d'un bibliothécaire d'organiser l'information. Donc, c'était absolument passionnant. Et on voit là arriver deux grands modèles qui perdurent actuellement. Donc, c'est vraiment des utopies qui, elles, vont perdurer. C'est le modèle de la recherche. Comment je fais une recherche qui va me donner le maximum de résultats, si possible, vers un langage naturel. Hein, donc, ça, c'est un mot d'informaticien, le langage naturel. Hein. Le reste, c'est du langage humain, en fait. Mais bon, pour eux, il y a les langages codés, et donc derrière, l'autre, c'est le langage naturel. Donc l'idée que vous connaissez depuis que vous êtes au biberon, quoi, de poser sa question dans Google, et puis voilà, c'était inimaginable. Dans ces banques de données, il fallait avoir un langage de commande, une réflexion. On prenait à peu près 1 heure avant de poser une question à la base de données, hein, à discuter avec les gens. Bon, voilà, et ça coûtait très très cher en plus, donc fallait aller très très vite, enfin bon, voilà. Et d'où l'idée de faire d'ailleurs des anté-serveurs intelligents, donc c'était le sujet de ma thèse, alors je suis content d'en parler, mais qui était l'idée de faciliter l'accès aux personnes lambda pour accéder à l'information. Et puis l'autre grand modèle qui s'est développé à ce moment-là, c'est le modèle hypertexte. C'est l'idée qu'on va naviguer dans l'information, on va avoir l'information qui est découpée en petits blocs qui sont interconnectés, et ça doit être très facile de passer d'un bloc à l'autre. C'est l'hypertexte éditorial, donc à l'époque le logiciel de Apple qui s'appelait HyperCard, et puis c'est le logiciel mondial, le web, hein, inventé en 87, les premiers trucs par Tim Berners-Lee, que j'ai mis ici. Et Tim Berners-Lee propose d'ailleurs son web à la revue, enfin au congrès scientifique de l'ACM, c'est l'American Computing Machinery, et il est refusé en disant ouais, non, mais ça, tout le monde connaît, ça n'importe rien à personne. Là aussi, différence entre la science et la technique qui est assez impressionnante. Toujours deux problèmes et qui persistent, qui sont repérés dès la fin des années 80 dans les hypertextes, c'est Lost in the Hyperspace. J'ai commencé, j'ai cliqué, je suis allé ailleurs, et à la fin, la raison pour laquelle je m'étais connecté, c'est perdu parce que j'ai navigué. Ça, vous le faites tous les jours sur votre téléphone mobile. Et puis le deuxième problème, c'est le problème du musée d'art. Vous rentrez dans un musée, vous voyez plein de choses merveilleuses, mais en sortant, vous ne vous rappelez que des œuvres que vous connaissiez avant. Sauf cas exceptionnel, la découverte, mais globalement, on se rappelle que des choses, on a vu enfin l'œuvre que l'on connaissait précédemment. Donc, on est un peu dans cette situation. Donc, ça, c'est Tim Berners-Lee quand il était jeune et beau. Alors, la première utopie de l'Internet, là, c'est l'industrie de l'information, l'organisation de l'information. Et puis arrive 93 pour moi, où je découvre sur un appareil comme celui-là, 25 lignes de 80 colonnes en orange sur fond noir. Et encore, j'avais de la chance, ce n'était pas en vert. Et donc, je découvre l'Internet et surtout l'Internet comme outil de communication. Ce qui était le plus marquant, c'est que les gens s'échangeaient de l'information au travers de quelque chose qui est le mail. Le mail est quand même la glu qui faisait fonctionner l'Internet. Bon, je sais qu'aujourd'hui, non, c'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était ça qui était important parce que les gens pouvaient s'échanger de l'information, se répondre. Ça recréait quelque chose de l'ordre de la République des lettres dans le domaine scientifique. La République des lettres au XVIIe siècle, c'est le fait que les chercheurs européens s'écrivaient les uns les autres et se répondaient, s'enrichissaient mutuellement. Donc l'idée, c'était que ça allait être rendu possible. N'oubliez pas quand même que l'Internet, c'était d'abord les chercheurs qui étaient là à l'origine. Donc c'est la possibilité de communiquer, d'exercer sa liberté d'expression. Je vais revenir sur cette question-là. Et donc, on a créé à l'époque ce qu'on appelait des listes de diffusion, des espèces de forums, c'est-à-dire les gens écrivaient à la liste et la liste le redistribuait à tous les adhérents. Donc, alors on est dans le modèle de l'univers du texte. Là aussi, il y avait à cette époque-là des jeux multi-usagers, des MMORPG, en texte. D'accord ? Des choses qu'on a du mal, effectivement, je vois Sébastien qui rigole, et je comprends pourquoi, il jouait à ça, lui, avec passion, mais voilà. Donc les gens étaient passionnés par les jeux en mode texte, autant, et en groupe, autant que vous pouvez l'être par les jeux vidéo dans les mondes virtuels. Donc moi, je crée une liste de diffusion qui s'appelle BiblioFR en juin 93, avec 28 adresses glanées. On a arrêté en 2007 avec 18 000 personnes. Et c'était en fait la première liste de diffusion qui n'était pas menée par des informaticiens, mais par, en l'occurrence, des bibliothécaires, des documentalistes et des gens du monde du livre. Donc voilà. Donc ça, c'était le basculement, en fait. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un basculement de la micro-informatique des hobbyistes vers le grand public avec le Macintosh. Eh bien, l'année 93, avec la naissance du premier navigateur Mosaïque qui permettait de mettre des images, c'est le basculement d'un Internet réservé aux informaticiens qui échangeaient de l'information technique à un Internet grand public. Voilà. Donc, on crée une liste de diffusion pour justement être sur ce réseau de communication. Et alors, c'est assez étonnant, donc, pour un bibliothécaire dont le métier, c'est d'organiser des rayons de livres, des rayons d'information, au lieu de créer un système d'information centralisé avec des clés d'accès qui permettraient aux gens d'accéder, c'est de faire un réseau d'échange de paroles. Bon, ça a bien marché. Et donc, ça renvoie à cette première grande utopie de l'Internet qui est la liberté d'expression. C'était le modèle principal pour ce qu'on appelle les pères fondateurs, les founding fathers, comme les pères fondateurs de la République des États-Unis, de l'Internet. Donc c'était l'idée qu'on va donner un moyen à tout le monde de s'exprimer, et alors ça va forcément créer un monde meilleur. Cette idée que les outils remplacent en fait la politique, remplacent le... C'est un peu le problème des utopies, ça. C'est que les utopies, quelque part, elles veulent remplacer le frotti-frotta, les divergences, les choses comme ça. Tout doit être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout doit être écrit et calibré d'avance. Et ça va forcément aller vers un monde meilleur. Ils n'avaient pas vraiment, à mon sens, prévu que ça serait Elon Musk et Mark Zuckerberg qui organiseraient la liberté d'expression maintenant à leurs propres avantages et services. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment que l'information, les gens avaient un ordinateur pour une raison X. Pas pour communiquer, pas pour écrire des textes, pas pour s'exprimer. Ça devenait, une fois qu'ils l'avaient, ils avaient un réseau et hop, ils pouvaient créer leur page personnelle, ils pouvaient échanger, écrire des mails, recevoir, etc. Donc, c'était pour un coût marginal de zéro. Il suffisait de créer, de vouloir créer, vouloir s'exprimer, et l'outil allait permettre de le faire. Alors, c'est toute une série de punchlines qui ont été dans les années 90. Celle de Yellow Biafra, qui était le chanteur des Dead Kennedys, un groupe punk important à l'époque, qui disait « Don't hate the media, become the media ». Faites-le. Faites Indie Media, dont j'ai mis le logo à côté. C'est Information Wants to Be Free. Puisque l'information est ramenée à son coût marginal et que son coût marginal est très proche de zéro, il faut qu'elle soit libre. Voilà. Donc il faut qu'elle circule entre tous les gens qui le veulent. Ça a été le mythe aussi que les blogs, puis les médias sociaux, allaient permettre à tout un chacun de faire de la typographie. C'est-à-dire, on se dispensait d'avoir à mettre en page, à avoir sa home page, sa page personnelle sur Internet, et on remplaçait ça par le simple fait d'écrire sur un média social, etc., etc. Voilà. Alors, le problème de fond de cette logique d'une liberté d'expression vécue comme ça, comme un outil forcément démocratique, c'est d'oublier que ça a été fait et créé dans un monde totalement homogène, complètement de gens qui se ressemblaient, qui avaient tous un bac plus simple, qui étaient tous dans des pays riches, etc., etc. Et donc, c'est de croire qu'en fait, on a une méritocratie des déjà méritants. En fait, c'est ça qui était le mythe qu'il y avait à l'intérieur. Et quand Internet s'est ouvert à tout le monde, aujourd'hui, il y a plusieurs milliards d'internautes. Donc, ça veut dire que dans tous les pays, il y a Internet, il y a le téléphone mobile. Enfin, voilà. Donc, à l'époque, il y avait ce dessin très, très célèbre, publié en 93, qui dit sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. C'est-à-dire que tous les chiens de l'Internet savent écrire pareil. Et donc, on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait très bien qui écrit. Et on le sait dans le texte lui-même, et on le sait aussi parce que les systèmes qui nous permettent d'écrire captent assez d'informations sur nous pour faire qu'on regrette l'époque où personne ne savait que vous étiez un chien. Et maintenant, il y a de la publicité pour la nourriture canine. Voilà. Alors après, on est passé à l'univers de la vidéo. Là aussi, moi, j'ai été très impressionné. Ceci est la première vidéo diffusée sur YouTube. Il ne se passait pas grand-chose. Moi, ce que je trouvais fascinant, c'est qu'il y avait des vidéos d'une minute, une minute trente, de gens qui chantaient ou qui dansaient, ce qu'on a retrouvé sur TikTok après, etc. C'est l'expression de soi, mais pas pour dire quelque chose, pour exister. Exister avec la vidéo. Alors, la vidéo, c'est une vieille histoire d'utopie aussi. C'est des années 70. Quand on a commencé à avoir de la vidéo, tous les militants, par exemple, s'en sont emparés. Il y avait des groupes militants qui faisaient de la vidéo pour pouvoir rapporter les choses. On pouvait interviewer quelqu'un, l'avoir physiquement, voir ce qu'il avait à dire avec son ressenti, avec tout ça, sans avoir besoin de tout l'appareillage du cinéma. Donc là, ça a été, dès les années 70, on a associé la capacité de filmer avec la capacité de montrer. Ça perdure. On le voit avec aujourd'hui toutes les vidéos de témoins qui sont placées sur Internet dès qu'il se passe quelque chose, surtout si c'est dramatique. Mais en même temps, j'ai monté un peu le son, je crois. Donc ça, c'est un autre aspect de YouTube, c'est qu'il y a des milliers, des milliards de tutoriels. Mais ce qui est intéressant de cette publicité, je vais baisser un peu le son, c'est une publicité de YouTube, pour YouTube, et qui dit « YouTube is watching you ». Il vous connaît, il vous regarde. Et ils se sont pris à leur propre piège parce que c'est effectivement quelque part ce qu'on leur reproche. C'est d'avoir des algorithmes qui nous regardent, qui nous classifient, etc. Donc voilà. Donc ça, ça a été l'utopie de la vidéo sur Internet. Chaque minute, il y a plus de vidéos chargées sur YouTube que ce que vous pourrez jamais regarder tout au long de votre vie. Donc, là aussi, problème après d'organisation d'information. L'autre grand moment de bascule de l'Internet, une autre nouvelle utopie, c'est qu'on allait avoir l'Internet dans la poche. Alors là, je vais vous montrer, je vais rapprocher le micro pour que vous puissiez bien entendre. La vidéo est longue, mais je vais montrer juste le début parce que je la trouve assez fascinante. Je vais éventuellement en commenter en même temps. Donc c'est Steve Jobs qui présente le iPhone et vous verrez, j'y ai piqué son introduction. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device.
Donc vous avez vu que j'ai piqué l'intro. Il y a quelque chose de fascinant dans ce rythme ternaire, c'est One Scotch, One Bourbon, One Beer de John Lee Hooker. C'est l'idée que les gens qui sont dans la salle, qui applaudissent, c'est pas n'importe qui, c'est les journalistes. C'est rare d'avoir des journalistes qui applaudissent la personne qu'ils vont voir. Et là, ça montre dès le début un espèce de basculement. En fait, à l'époque, les journaux étaient les agents de communication de l'Internet. Peut-être qu'ils sont aujourd'hui les agents de communication de l'intelligence artificielle. Et non pas des gens qui vont interviewer, poser des questions, etc. etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est à mon sens assez spécifique. Des utopies numériques, c'est qu'elles s'associent toute une série de gens qui seraient là pour plutôt remettre en cause et qui deviennent des propagandistes. Voilà. C'est un art du spectacle. C'est vraiment Internet, enfin l'industrie informatique est une industrie du spectacle. On a un peu la même chose aujourd'hui avec l'univers virtuel. Je vais passer parce que sinon, on n'aura pas le temps. Je vais vous donner les diapos, hein. je les donnerai à Vassili. Comme ça, vous pourrez les récupérer et il y a les vidéos en entier. D'ailleurs, c'est assez fun de voir Steve Jobs qui présente le iPhone de 2007, hein, le tout premier, par la suite de la vidéo, etc. Donc, là aujourd'hui, donc on a eu l'univers du texte, l'univers de la vidéo, l'Internet dans la poche, et puis l'univers virtuel, l'idée que donc on allait pouvoir se plonger dans un métavers, c'est une chose à laquelle j'avoue, j'ai jamais vraiment cru. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que à l'origine de tout ça, il y a un livre fabuleux publié en 1983 aux États-Unis qui s'appelle Neuromancer de William Gibson, un livre de science-fiction après lequel les chercheurs vont courir pour essayer de réaliser dans le concret les imaginations, les imaginaires de représentation des données. C'est à la base de tout ce qui va être aujourd'hui sur les illustrations à partir des données, sur les grandes entreprises, ça s'appelle les Aibatsu, comme les grandes entreprises mafieuses japonaises, et puis les hackers, les petits gars derrière dans leur atelier qui vont essayer de hacker la machine. Le rôle des médias, des self-médias, c'est-à-dire les animateurs de médias, ont un œil qui capte, c'est plus leur œil, c'est l'œil qui capte pour le média. Une GoPro installée en permanence, quoi. Enfin bon, il y a tout ça, et je trouve ça assez fascinant de se rendre compte que les livres de science-fiction ont servi de modèle à des recherches scientifiques. Et celui-ci absolument particulièrement. Autre texte important de la fin des années 90, c'est la déclaration d'indépendance du cyberespace faite par John Perry Barlow, qui est décédé l'année dernière. Il écrit ce texte pour dire « Mais vous, les gens de l'industrie, en fait, vous ne mêlez pas de tout ce qu'on fait sur Internet. On est un autre monde, on est libre, on est weightless. Chez nous, il n'y a pas de matière. » Bien évidemment, c'est faux. On le sait aujourd'hui. Il y a la matière de l'extractivisme qui permet d'avoir les minerais nécessaires pour fabriquer des appareils. Il y a la consommation électrique. Il y a tout ça. Enfin, et puis, on s'aperçoit de plus en plus que ce qui se passe dans le cyberespace a des conséquences très concrètes sur Terre. Je ne donnerai qu'un exemple. C'est il y a 2 ans, il y a eu un hack sur un serveur qui gérait les pipelines aux États-Unis. Et pour éviter les accidents, etc., le gouvernement était obligé de bloquer complètement le pipeline. Et donc, il n'y avait plus d'essence dans les stations-service. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller chercher les armes autonomes ou les choses comme ça pour se rendre compte que tout ce qui se passe dans le cyberespace est en fait quelque chose qui se passe sur notre planète Terre. Alors, Avant de passer, dernière partie sur les belles utopies qui perdurent, c'est quelles ont été les utopies contre-productives, celles qui n'ont servi à rien, peut-être même ont été dommageables sur la pensée d'utopie qui vont servir. La première, je pense, c'est tout ce qui est de l'ordre du rejet des institutions. Cette idée que dans ce monde interconnecté, cybernétique, dont je parlais tout à l'heure, nous n'allons plus avoir besoin d'institutions. Ça, c'est typiquement la loi de la jungle. C'est typiquement la loi du plus fort qui va s'imposer sur tous les autres. Parce que les institutions sont à la fois, elles ont des missions parfois de protection, mais de toute façon, elles sont des lieux d'affrontement politique et donc une nécessité pour chacun de se regrouper pour faire poids sur les institutions. Donc, ce rejet des institutions qui aujourd'hui est devenu presque le béaba de ce qui se dit sur Internet, est une utopie, à mon sens, contre-productive. Il faut mieux essayer de changer les institutions, de les démocratiser, de les rendre accessibles à tous. Mais penser qu'on peut s'en dispenser, c'est le modèle dit libertarien. À mon avis, il ne donnera jamais grand-chose. Dans la suite de ça, est-ce qu'on peut se passer des banques pour inventer des crypto-monnaies ? Là aussi, c'est à mon sens une utopie contre-productive, parce que la monnaie, c'est de la politique. On choisit de la monnaie. On choisit d'en faire ou de ne pas en faire. On choisit de créer de l'inflation ou pas. On choisit toute une série de rythmes qui sont au service de quelqu'un. Et voilà, après, encore une fois, question d'avant, est-ce qu'aujourd'hui, de toute façon, les banques sont au service de vous et de moi ? Non. Mais bon, ne pas avoir ces banques, ça peut être encore bien pire, comme le montrent tous les exemples des crashs des systèmes de crypto-monnaie. L'idée qu'il y a une weightless économie, dont je parlais tout à l'heure, donc cette idée que ça n'aurait pas de poids, que ce serait une économie qui ne dépenserait pas d'énergie, etc., serait une économie immatérielle, ça n'a pas marché. C'est aussi l'idée que les outils servent à changer le monde, ce qu'on appelle le déterminisme technologique. Non. Donner les outils, on voit bien que ça n'a pas servi à changer le monde, ça a changé les dirigeants du monde. Peut-être que les dirigeants du monde aujourd'hui sont justement les opérateurs des grands systèmes numériques, et non plus ni les États, ni les armées. Ah, ok, mais ça n'a pas changé le monde, en tout cas mon monde et votre monde, je ne crois pas que ça ait beaucoup changé, dans le bon sens, je voulais dire. Et enfin, c'est derrière cette idée des outils disponibles qui vont changer, il y a quelque chose qui à mon sens est dangereux, qui est l'utopie qu'on va pouvoir remplacer la politique par l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on va avoir des ingénieurs sociaux qui vont trouver des réponses, des solutions. Tout ce qui se discute actuellement sur le réchauffement planétaire tourne autour de cette question. Comment éviter de changer les modes de production, les modes de consommation, les modes de vie, les modes de relation ? Comment éviter de changer tout ça ? Tout simplement en créant de nouvelles techniques avec de nouvelles ingénieries, etc., etc. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les utopies qui vont perdurer. Et celles-là sont presque toutes nées des questions culturelles. Donc là aussi, je pense que, bon, pour les sociologues, vous connaissez évidemment le livre de Luc Botanski et F. Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, où il distingue la critique sociale de la critique artiste, et en montrant que la critique artiste est, non pas récupérée, j'aime pas ce terme, mais intégrée, en fait, par le développement du capitalisme numérique, capitalisme cognitif, enfin, toute une série de mots pour dire ça. Nous, on a publié un livre sur, justement, comment l'art est exploité par le management, comment on transforme l'art en outil de management. Alors, la première de ces utopies qui perdure et qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle le logiciel libre. C'est vraiment emblématique de la notion de commun numérique. À partir du moment où des informaticiens vont accepter d'ouvrir leur code informatique et de permettre à d'autres de regarder, d'apprendre, d'améliorer et de repartager ce qu'ils ont amélioré, on crée une dynamique interne à la communauté des développeurs informatiques. Alors, aujourd'hui, le logiciel libre a quelque peu changé. il est devenu en fait des briques de base dont les grandes industries dont je parlais tout à l'heure s'emparent pour se servir sans les financer d'ailleurs, ce qui pose parfois toute une série de problèmes. On pourra éventuellement en parler dans le débat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le logiciel libre, c'est la base même de l'Internet. C'est la base du DNS, donc le domaine name system, le fait d'avoir des noms de domaine. C'est la base de la sécurité des échanges avec SSL. Enfin, voilà. Donc sans logiciel libre, pas d'Internet, très clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui a été lancé en 1984 par une conférence qui a eu lieu à San Francisco et dont Stephen Levy a écrit le livre à partir de cette conférence, qui s'appelle « L'éthique des hackers », justement, qui montre que voulaient tous ces gens qui voulaient que le logiciel soit libre, partageable, ouvert, etc. Et puis, bien sûr, Richard Stallman, hein, donc, qui est celui qui a mis en musique, en fait, qui a créé la philosophie du logiciel libre, qu'il explique d'ailleurs en quelques mots à Paris.
Bonsoir. Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Trois mots presque oubliés en la France actuelle. Liberté, égalité, fraternité.
Voilà. Donc c'est bien comprendre que le logiciel libre, il était fait pour garantir le maintien des libertés individuelles, des libertés collectives, à l'intérieur d'un monde où on ne voit pas ce qui se trame. Parce que maintenant, on s'en aperçoit de plus en plus, puisqu'on sait qu'on est tracé. Donc on sait qu'on est tracé, ça veut dire que entre la machine, le réseau, tout ça, il y a bien des gens qui captent, qui grattent, des choses qu'on ne voit pas faire. Et l'idée d'avoir un logiciel libre, c'était la garantie qu'on pourrait voir ce qui se passe, qu'on pourrait savoir ce que traficotent les gens. On pourrait aussi éviter que les données, les textes, les images, les vidéos soient sous des formats propriétaires et donc disparaissent avec l'entreprise qui a créé ces formats-là, ce qui existait dans les années 80. Voilà. Donc cet appel à la liberté, c'est aussi un appel à la protection de nos libertés. Ce n'est pas seulement la liberté des développeurs de développer comme ils veulent, c'est aussi la liberté de la société qui s'appuie sur ce monde numérique qui, ils le pressentaient parce qu'ils étaient dedans, allait devenir le monde majoritaire. Alors derrière découle toute une série d'outils qui sont basés sur la notion de commun, donc la notion de partage par les gens de l'information. Rappelez-vous tout à l'heure cette information qui est ramenée à son coût marginal. Donc, ce que les gens vont pouvoir mettre comme information, coût marginal, ça ne leur coûte pas grand-chose, ils vont mettre, mais ça va créer quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux, comme par exemple cette carte OpenStreetMap qui permet à tout un chacun d'ajouter sur un fond de carte des informations qu'il concerne. Alors rappelez-vous, c'est super important parce que la carte, c'est une carte d'état-major, c'est un outil militaire. La carte, c'est un outil de décision. Et là, avec les cartes ouvertes, on donne aux gens, alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne suffisait pas de donner des outils, d'accord, mais c'est quand même pas mal d'avoir des outils. Hein, donc là aussi, ça donne aux gens, mais il va falloir ensuite qu'ils s'organisent, qu'ils réfléchissent, qu'ils aient envie de mettre sur une carte leurs informations, celles qui les intéressent. Je crois que ça, c'est les jardins partagés qui peuvent exister en Allemagne, qui sont pointés ici. Enfin, bon, voilà, il y a un truc qui s'appelle Falling Fruits qui raconte dans les villes quels sont les arbres fruitiers qu'il y a dans les villes, sur lesquels, comme c'est dans l'espace public, chacun peut aller se servir, etc. Donc, il y a des tas d'idées qui peuvent émerger à partir de la capacité à construire des cartes. Bon, là, je ne vais pas... Hein, je pense que vous en servez tous les jours. D'ailleurs, est-ce que vous allez profiter pour verser 2 euros? Ouais, hein. Merci à vous. Voilà, donc ce système marche quand même parce qu'il y a beaucoup de serveurs, donc d'argent, donc de besoins. On en recausera éventuellement. Autre utopie qui perdure, c'est l'idée que je peux faire un travail et je n'ai pas forcément envie de le vendre ou envie d'avoir avec ceux qui sont intéressés par mon travail créatif une relation marchande. Ça peut tout à fait ne pas m'intéresser. Pour des tas de raisons. Par exemple, moi, si je dis, Je vous donne mes diapos, là, vous, Vassili les aura, vous pourrez les récupérer, vous en faites ce que vous voulez. Ça va, je suis déjà payé, c'est bon, je n'ai pas besoin de vous vendre ça, quoi. Donc c'est une des raisons. D'autres raisons, c'est gratuit, c'est un produit d'appel. Donc je vais donner quelque chose, puis après on va revenir vers moi pour faire des consultations. Donc et puis il y a tout simplement le fait qu'on peut avoir envie de donner. Hein, c'est cette idée que l'humanité serait toujours égoïste, non, il y a des tas de gens qui ont envie de donner ce qu'ils font. Voilà. Donc voilà, c'est derrière les licences Creative Commons, ce n'est pas seulement un outil juridique, mais c'est un lifestyle, quoi, une manière de concevoir le monde. Excusez-moi. Alors, un des premiers exemples qui a eu lieu, c'est ce qu'on appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, le projet Gutenberg. Michael Hart a créé un système où les gens tapaient des œuvres du domaine public et les mettaient sur un serveur. Alors, ça a commencé juste en pleine vanilla ASCII, c'est-à-dire juste les lettres. Et maintenant, c'est en format EPUB, HTML, etc. Enfin, tout ce qu'il faut. La plupart des œuvres du domaine public que vous achetez aujourd'hui, pour gratuitement, si possible, viennent de ce projet-là, qui a été des milliers de personnes de par le monde qui, peut-être, ça peut rappeler ceux qui ont des cours d'histoire contemporaine, le samizdat. Le samizdat, c'était à partir du moment où en URSS, les œuvres ne pouvaient pas circuler, il fallait un imprimatur pour pouvoir faire un livre, et bien les gens, le soir, retapaient à la machine à écrire les œuvres qu'ils avaient reçues, donc il y avait deux exemplaires, et ils faisaient circuler comme ça. Donc, bien penser que derrière, il y a cette volonté des individus de participer à quelque chose, surtout si ça peut s'affronter au pouvoir. Alors, l'autre grand événement des années 90, c'est le libre accès à la science. En fait, bon, traditionnellement, un sociologue qui s'appelle Merton avait défini la science comme étant quelque chose de communaliste, voire même il utilisait le terme communiste dans les années 50, désintéressé, universel, enfin, etc. Sauf qu'entre-temps, il y a eu concurrence entre les chercheurs capables d'écrire des articles et d'être cités et les autres, concurrence des revues qui devenaient le piège à recherche. Pour être chercheur, il faut publier. Pour publier, il faut une revue. Et donc, la revue gagne beaucoup d'argent parce qu'elle va se revendre aux bibliothèques des universités. Donc, arrive Internet et donc notre fameux coût marginal. Une fois que le chercheur a écrit son article, qu'il a donc dépensé le matériel de laboratoire, l'argent de son labo, son salaire, enfin, ce qu'a payé l'université, ce chercheur n'a plus qu'à le déposer quelque part pour que tous les autres chercheurs de sa discipline puissent aller le chercher sans échange financier. Et ça, c'est un jeune homme, Paul Ginsberg, qui va créer ça en 91, à partir d'un ordinateur inutilisé qui était dans son bureau sous la caisse, celui que vous voyez là. Il va créer donc un système où les chercheurs d'une petite communauté de chercheurs, ceux des hautes énergies, hein, la physique des hautes énergies, donc ils se connaissent tous dans le monde puisqu'ils utilisent tous les mêmes appareils comme le GANIL ici à Caen, etc. Et donc ils mettaient leur pré-publication, c'est-à-dire leur texte une fois écrit avant qu'il soit accepté par les revues. Et là, ça a été le démarrage d'un système d'archivage par les scientifiques de tous leurs travaux pour les partager dans la communauté. Le terme n'est pas innocent. Scientifique. Comme tout terme pas innocent, il y a beaucoup de mythes derrière, mais bon. Donc cette idée d'un partage du savoir scientifique, et il a ses héros, hein, parce qu'il n'y a pas d'utopie sans héros. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on tienne compte de ça. Le premier, c'est Aaron Swartz, qui malheureusement s'est suicidé parce qu'après avoir téléchargé toute une série d'articles scientifiques et les avoir mis à disposition, il s'est retrouvé en prison, harcelé par le FBI, etc. Et donc, il s'est suicidé. C'était un petit génie du monde alternatif. Il est aussi un des créateurs des Creative Commons. C'est lui qui a créé le réseau RSS, Markdown, pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà. Et l'autre héroïne, c'est Alexandra Elbakian, qui, au Kazakhstan, a créé un serveur qui s'appelle C-Hub, qui est le serveur scientifique le plus consulté au monde, sauf que cette jeune fille ne peut plus quitter son pays, ne peut plus aller ailleurs, parce que immédiatement, les tenants des grandes revues scientifiques lui tomberaient sur le rab et la mettraient en prison. Donc voilà, donc elle est astreinte à domicile. Donc c'est des millions de requêtes venant des chercheurs, communautés scientifiques. Jamais oublié qu'il y a les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud. Il y a les chercheurs riches et les chercheurs qui n'ont pas d'argent. Autre élément essentiel de l'utopie numérique, c'est la participation. C'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir construire une science en commun avec des gens qui vont observer. Plus il y a d'yeux, des yeux, pour regarder, et plus on a des chances de s'apercevoir de phénomènes. Alors c'est vrai à l'échelle de viginature, donc d'expérience dans la nature, mais c'est vrai dans plein de domaines scientifiques. On a eu par exemple des analyses d'images de télescopes faites par des amateurs, dont un jeune garçon qui un jour a découvert une nébuleuse qu'on ne connaissait pas en regardant les images. J'accélère. Données ouvertes, c'est le fait que, ça c'est un livre qu'on va publier le mois prochain, les données de la démocratie, l'idée que, qui est inscrite dans la loi en France, dans ce qu'on appelle la loi pour une république numérique, qui est quand les institutions captent de l'information pour faire leur métier, c'est-à-dire pour essayer de diriger, d'organiser, etc., autant l'ouvrir, parce que justement on aura beaucoup de personnes qui vont pouvoir regarder, s'en servir, et soit faire du plaidoyer, du contre-pouvoir, soit au contraire faire des suggestions, là aussi, cette utopie de l'accès démocratique par le fait de partager la connaissance, en l'occurrence la connaissance sur les données. Idem, une des utopies qui perdure, c'est la production d'images. Il faut vous rappeler que Kodak, les appareils photo, qui coûtaient très cher, où chaque image coûtait cher parce qu'il fallait la développer, était la plus grande industrie du XXe siècle. Et qu'elle est morte en quelques mois, quelques années, avec le développement du numérique, et qu'aujourd'hui nous avons cette multiplication des images, y compris des images factices. On est en train de le voir se développer avec les images d'intelligence artificielle, les images de synthèse. Juste, je ne sais pas si vous vous rappelez de la première image, c'était la carte de l'Internet en 2007, et ça c'est la carte de l'Internet faite avec les mêmes algorithmes par la même équipe de recherche maintenant. L'apprentissage collectif, là aussi c'est quelque chose, il y a des milliers de tutoriels sur Internet. Et particulièrement, ça a été les informaticiens, avec ce système, s'il y en a qui font de l'informatique dans la salle, ils connaissent forcément, qui s'appelle Stack Overflow, qui fait que les gens posent des questions et d'autres donnent des réponses. Et comme ça, il y a un système de points qu'on gagne qui fait que ces réponses sont validées plus facilement, enfin, etc. Mais il y a tout un système qui permet, enfin, je sais que moi, quand je programme, je ne peux pas faire autrement que de, forcément, au moins une fois dans ma période de programmation, aller consulter Stack Overflow. Les capacités d'organisation aussi. Là, c'était pendant les manifestations de 2016, Nuit Debout, un grand concert qui reprend 250 musiciens qui vont jouer la symphonie du Nouveau Monde. Et qui se sont inscrits tout simplement avec un framadat. Ils ont inscrit, ils ont dit voilà mon instrument, je sais jouer, etc. Et donc voilà. Donc c'est des capacités d'organisation. Là je saute. Culture participative. Donc c'est l'idée que on va pouvoir créer des choses culturelles en groupe, en faisant participer, en ignorant personne, en essayant d'intégrer ceux qui savent, intègrent ceux qui ne savent pas, etc. Là aussi c'est quelque chose que moi, à titre personnel, j'ai vécu le jour même où je suis rentré sur Internet. Alors pourquoi ? Petite histoire. J'avais une adresse mail, très bien, et puis j'arrivais jamais à recevoir de mail. Je pouvais en envoyer, mais j'arrivais pas à en recevoir. J'avais beau essayer de m'abonner à des listes de diffusion, je n'arrivais pas. Jusqu'à ce que j'envoie un message, je disais, mais pourquoi je n'arrive pas à me connecter ? Et là, je tombe sur quelqu'un, Jack Kessler, qui est devenu un ami ensuite, qui me dit, mais c'est parce que tu as des tas de caractères bizarres dans ton adresse mail qui fait que personne ne peut te répondre. Et lui avait enlevé les caractères bizarres. Et oui, les gens me connaissaient ici, tout le monde m'appelait Hervé. Hervé, il y a un accent. Et donc, dans mon mail, Hervé, paf. Et donc, mon mail ne marchait pas. Voilà. Donc, dès le début, cette capacité d'entraide est quelque chose d'absolument inscrit dans les fondements de l'Internet. Voilà, je vais conclure en disant, ben voilà, c'est, le mot est très beau. Il vient de l'association Framasoft, Contributopia, c'est-à-dire une utopie de la contribution, des gens capables de contribuer pour créer, développer leur utopie. C'est quoi une utopie ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de projet d'avenir si on ne le rêve pas à un moment donné. Alors, vous avez vu l'image que j'ai mise. Ce n'est pas mon rêve, c'est d'autres. Et d'autres, ils ont construit leur avenir en le rêvant comme ça. Hein, c'est en Chine, c'est des immeubles, bon, voilà. Donc, les utopies, tous ceux qui veulent agir sur le monde en produisent. Mais l'utopie, elle est faite au moment de sa création. Donc, quand les gens n'ont pas les moyens politiques d'appliquer leur utopie, et peut-être tant mieux. Et donc, une utopie ne s'appliquera jamais. Parce que le jour où on serait en mesure de l'appliquer, où les gens qui ont porté cette utopie auraient des leviers de pouvoir, qu'ils soient culturels, politiques, économiques, etc., ben elle ne serait plus d'actualité. Et c'est peut-être pour ça que les utopies deviennent des dystopies. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut jamais appliquer une utopie à fond les gamelles, parce qu'elle oublie que le monde change et que les négociations, les rapports de force, les choses comme ça sont ce qui constitue la patte sociale dans laquelle nous vivons. Voilà. Par contre, c'est un moment nécessaire pour l'action. Il n'y a pas d'action si on ne pense pas qu'on va créer un avenir différent, meilleur, etc. Et alors là, c'est la sociologue Dana Boyd qui dit, ben voilà, nous, tous les gens de la technique, on a cru que tout simplement, on allait pouvoir faire circuler l'information, le bien. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les mêmes réseaux servent avant tout à faire circuler la haine. Elle a écrit ça au lendemain de l'élection de Trump. Voilà. Donc, et pourtant, on continue à développer ce message que liberté d'expression, que ceci, que cela, qu'en fait, il suffit de mettre des outils qui soient adéquats et puis on va pouvoir changer le monde. Bon, moi, je pense qu'il faut revenir aux échanges humains, hein, ne pas succomber aux injonctions de la modernité, hein, ne pas avoir peur de penser que tout simplement, c'est très bien d'être ensemble et de boire des coups comme on fait depuis des siècles. Hein, voilà. Et on ne va pas tarder. Hein. Et enfin, dernier point, et c'est mon dernier transparent. Donc, si je pars du principe que ce n'est pas bien de réaliser une utopie, si on l'applique, on applique quelque chose du passé à un moment présent. Par contre, c'est utile de faire de la politique. Et la politique, c'est quoi ? C'est surtout pas vouloir imposer son utopie. Ça, c'est la théologie, pas la politique. La politique, c'est l'art de construire des rapports de force, des affrontements, des collaborations, tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, la société peut changer. Et dans le monde contemporain, particulièrement dans un monde dominé par le numérique, le socle des politiques contemporaines, c'est la bataille culturelle. C'est ce que Gramsci appelait l'hégémonie culturelle. C'est l'idée que, eh bien, à un moment donné, il y a des idées qui s'emparent de la société et qui s'appliquent tout simplement parce que tout le monde dit, ben oui, c'est naturel, c'est normal. Et donc aujourd'hui, avoir des utopies, c'est essayer de se dire quelle bataille culturelle je vais pouvoir mener, avec qui, contre qui, et dans quel environnement politique je vais le faire. Parce que si on ne fait pas ça, on se retrouve avec deux écueils, à mon sens, bien plus dramatiques encore que de rêver des utopies qui ne se réaliseront pas, mais ce n'est pas grave ça. C'est le je-m'en-foutisme, c'est le cynisme, et puis c'est le complotisme. Les complotistes sont en fait les derniers soutiens des pouvoirs en place. Croire qu'il y a un complot caché, alors même que nous avons toute la formation du monde à portée de clavier, c'est franchement vouloir que rien ne change. Voilà. Donc je pense que, faites de la politique. Parce que nous sommes l'Internet, et puis je termine sur cette citation de Marcel Mauss que j'aime beaucoup. Voilà. Merci à vous.